This is CKCU Literary News. Voici les actualités littéraires dans le monde francophone.
De Montréal.
Une émission consacrée à la nouvelle littérature québécoise. Fiction, poésie et essais. Une coproduction du webzine La Recrue du Mois.
Et de CKCU Literary News, réalisé par
Lucie Renaud
et Hanske Auger-Ruprecht. Lucie, je suis vraiment enchanté de vous retrouver de nouveau ici au Salon du Livre de l'Outaouais, parce que aujourd'hui vous avez deux jeunes auteurs, deux nouveaux auteurs qui ont déjà un certain bagage et qui sont prestigieuses, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. C'est un plaisir de se retrouver en Outaouais, en fait, de travailler, d'être sur le terrain plutôt que dans le relatif anonymat d'un studio ou de rester à Montréal. En fait, je m'entretiendrai aujourd'hui avec deux auteurs, Marie-Josée Martin, qui a publié récemment aux éditions David « Un jour, ils entendront mes silences », ainsi que Annie-Claude Thériault, qui a publié, elle aussi, aux éditions David, « Quelque chose comme une odeur de printemps ». Dans un premier cas, dans le cas de Marie-Josée, on parle d'un deuxième roman. Dans le cas d'Annie-Claude, un premier roman. Néanmoins, Annie-Claude vient se mériter récemment le prix Jacques Poirier. Et nos deux auteurs sont en nomination pour le prix Radio-Canada des lecteurs, ce qui est, dans le fond, le prix, selon moi, qui veut tout dire, le prix des lecteurs. Alors, bonjour Marie-Josée.
Bonjour Lucie.
Et bonjour Annie-Claude.
Bonjour.
Et de ma part, bonjour, bienvenue.
Merci.
Au micro de CKCU Literary News.
Merci. Alors, Annie-Claude, quelque chose comme une odeur de printemps. Alors, on est dans une émission qu'en avril, enfin, le printemps sera là, est là, nous sommes heureux. Je trouve ça intéressant quand même que ce livre-là, dans le fond, parle de Gatineau, de Hall, en fait, plus précisément. Mais j'imagine, si je comprends bien maintenant, il y a aussi le regard de la Montréalaise sur tout ça. Alors, comment vit-on ça, ce déplacement, finalement, entre l'adolescence et là où on en est aujourd'hui.
Mm-hmm. Oui, c'est une question intéressante parce qu'en plus, je pourrais même ajouter que ce livre-là a été écrit en Californie. Donc, pour ajouter un autre lieu ou autre. Mais donc, puisque j'étais loin, peut-être pas chez moi, il y avait vraiment une nostalgie du chez-moi, de mon enfance. Chez moi, ben, j'ai été ici jusqu'à 21 ans en Outaouais, donc c'était même plus loin que l'enfance encore. Puis en même temps, je pouvais pas me détacher du caractère urbain de Montréal qu'on dirait que je devais aussi transmettre dans ce livre-là quelque part, hein. Puis l'imaginaire nous fait vraiment replonger dans notre enfance. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un hall là-dedans. Puis aussi c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait l'Outaouais. C'est-à-dire que oui, là, je nomme des lieux, hein, Hall, Gatineau, mais c'est pas vrai que le boulevard Miron croise la rue Nelligan. C'est pas vrai que la côte Banane elle est à Hall, elle est à Gatineau. Donc il y a eu
C'est vraiment une rue Mars.
Oui, mais elle n'existait pas à l'époque, okay. À l'époque dans laquelle je la mets.
Est-ce qu'il y a des rues Jupiter et
oui,
Saturne aussi?
Oui, des vrais quartiers de planètes, effectivement. Oui.
Donc, dans le cas du livre de Marie-Josée, évidemment, on sent un peu moins la région de Gatineau, mais il y a le côté de la Montérégie. On n'est quand même pas dans la ville, dans la grande ville, entre guillemets, à part évidemment quand la mère part avec l'enfant pour aller à Victoria. Donc, pourquoi avoir situé ce roman-là en Montérégie plutôt que, justement, dans la région d'ici?
Je voulais situer le roman dans une région rurale. Et ayant grandi en Montérégie, je connaissais mieux cette ruralité-là que la ruralité outaouaise. Alors, pour être plus crédible, je l'ai ancré là. Et c'est une région qui est encore très chère à mon cœur. J'ai grandi, moi, en Montérégie, et ça m'habite encore.
Donc, dans le cas de ces deux romans, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous abordez de front, si on peut le dire, des sujets qui sont assez tabous quand même. Dans le cas d'Annie-Claude, on parle de la maladie mentale, de la schizophrénie, de aussi comment vivre en tant que membre de la famille et faire face à la culpabilité aussi dans le cas du décès du frère. Et aussi dans le cas de Marie-Josée, on parle d'une enfant qui est handicapée, mais qui, dans le fond, qu'on perçoit comme démunie, mais qui perçoit tout autrement et, dans le fond, qui a besoin d'avoir une voix, à qui on donne une voix. Alors, pourquoi avoir choisi, dans les deux cas, ce parti pris-là, quand même, pour un premier livre, dans un cas ou un deuxième livre, ici?
La maladie mentale, c'est que c'est un thème qui m'a toujours obsédée, en fait. J'avais vu un reportage quand j'étais au secondaire dans un cours, puis j'ai vraiment été perturbée par la place qu'on laissait dans la société aux gens qui avaient des maladies mentales. C'est-à-dire, on sait pas quoi faire avec. On les comprend pas, ça se voit pas. Puis particulièrement la schizophrénie qui sort complètement de nos cadres de compréhension, de rationalité. Donc, c'est quelque chose qui m'habitait depuis longtemps. Et je trouvais que la littérature l'aborde pas beaucoup. On n'aborde pas beaucoup des cas comme ça. Oui, on peut le voir rapidement dans une histoire, mais ne centre pas beaucoup de récits autour d'événements comme... de particularités comme la maladie mentale. Donc là, j'avais vraiment envie de creuser ça, de faire une histoire autour de la maladie mentale. Très difficile de faire le personnage lui-même sans sombrer dans un récit complètement de fiction ou de science-fiction ou peu importe. Donc, c'était plus notre rapport à la maladie mentale, le regard de quelqu'un d'autre sur la maladie mentale qui m'intéressait. Et en même temps... Le deuil face à la mort de cette personne-là aussi, je mettrais le deuil dans la même catégorie que finalement la maladie mentale ou que un handicap comme c'est le
parce
cas.
Parce que c'est un autre sujet tabou, ça, de parler de la réaction de la mort, surtout quand il y a un sentiment de culpabilité ici qui s'installe.
Exactement, puis je voulais traiter ces thèmes-là, donc que ce soit la mort ou la maladie mentale, le titre le démontre, en laissant une odeur de printemps, en montrant que il y en a tellement des gens dans la société qui sont atteints de maladies mentales, tout le monde en connaît là, de près ou de loin, dans sa famille ou peu importe, et qu'on peut continuer à vivre quand même. Hein. C'est que plus on est loin de ça, plus on a l'impression que c'est terrible, que c'est difficile, que... Mais les gens qui sont entourés, par exemple, les gens qui font eux-mêmes le deuil ou les gens qui vivent tout près avec quelqu'un qui est dans la maladie mentale, finissent par devoir continuer la vie au quotidien, finissent par continuer à manger, continuer à avoir des petits bonheurs, continuer à... Donc, je voulais comme soulever un peu ce contraste-là entre la difficulté reliée à la maladie, mais en même temps que les gens alentour et tout près ont quelque chose de positif quand même dans leur vie. Là.
Tout à fait. Alors, justement, dans ton livre, tu mentionnes Béatrice, donc la narratrice, tu dis justement à un moment, « Je voudrais avoir une voix, être autre chose que cette brise tiède et inodore sur les arbres, un cri strident, puissant, vivant. » Alors, bien sûr, je ne peux qu'établir un parallèle avec le titre du livre de Marie-Josée, « Un jour, ils entendront mes silences ». Alors, pourquoi avoir donné, bien sûr, on voudra peut-être voir des parallèles avec le vécu de l'auteur, mais je pense que ça dépasse largement ça, ici, non?
Oui, c'était de donner une voix, effectivement, et c'est étrange, vous avez choisi ce passage-là qui parle de cri, parce qu'on a aussi décrit mon livre comme un roman cri. C'était une réaction, c'était un peu ma réponse à la couverture médiatique de plusieurs affaires, en particulier l'affaire Latimer, mais aussi d'autres cas où des enfants handicapés ont été tués par un parent. Et ce que je constatais, moi, c'est que les médias se concentraient bien sûr sur le point de vue des parents, sur cette vision-là du monde. Une vision qui est toujours du point de vue d'une personne normale. Et quand on a un handicap, en général, on a une vision très différente. Entre autres de la souffrance, qui n'est pas nécessairement perçue comme quelque chose de négatif. Ça fait partie de la vie, simplement. Et en ce sens-là, ça rejoint beaucoup ce qu'Annie-Claude vient de dire. Alors, je me suis dit, comment amener les gens à voir l'envers de la médaille? Et puisque je suis écrivaine, j'ai choisi le livre, le roman, pour amener les gens à explorer ça.
Donc, ici, on ne parle pas du tout d'autofiction ou quoi que ce soit, là.
Non, c'est pas d'autofiction. Bien sûr que mon bagage de personne handicapée est entré en ligne de compte dans l'écriture. Toute ma sensibilité, elle est passée à travers le livre. Mais c'est pas mon histoire à moi.
Non, ben puisque vous êtes là pour la raconter, ça peut pas être... Alors, vous avez lu chacune le livre de l'autre. Et j'imagine que vous avez quand même perçu un écho d'une certaine façon, peut-être parce que justement vous avez abordé des personnages qui n'avaient pas de voix ou qu'on avait besoin d'aider à s'exprimer. Comment, quel genre de réaction, ou si on se rappelle de la réaction de lectrice, puis aussi j'imagine qu'il doit y avoir quand même une autre couleur quand on est auteur et qu'on comprend les rouages de l'écriture, ce qu'il y a derrière aussi le travail de cuisine, entre guillemets, là.
Oui, puis en fait, c'est ça, on s'était jamais rencontrés avant d'avoir publié dans la même maison d'édition, donc force des choses, on se rencontre dans un salon du livre, etc., on lit le roman l'une de l'autre, et puis finalement, moi, j'ai été vraiment renversée de voir les ressemblances, même au-delà juste, bon, d'abord, évidemment, on parle ici d'une personne handicapée, d'un cas, de l'autre, de la maladie mentale, donc il y a là des exclus de la société.
Les narratrices ont presque le même âge, en plus.
Et ce sont des narratrices, ce sont deux jeunes filles,
oui,
en plus.
C'est ça.
Qui ont un frère dans les deux cas aussi.
Oui, et
une sœur.
Voilà.
Trois enfants.
Et ils cherchent à avoir des voix, ces gens-là. Ils cherchent à s'imposer dans la... Mais même au-delà de ça, ce qui m'avait aussi frappé, c'est juste la forme. C'est-à-dire que deux romans sensiblement de la même longueur, divisé aussi par chapitre, petit chapitre, court, bref, un peu incisif. Chacune, on a un prologue qui vend un peu déjà la fin ou le milieu, dépendamment des cas du livre. Donc, il y avait beaucoup plus que même juste le traitement d'une question, de la particularité, mais aussi la forme des livres que je trouvais qu'il y avait vraiment une famille d'appartenance.
Oui, absolument.
Non. Une réaction, peut-être, toi, justement, quand tu as lu le livre Marie-Josée d'Annie Claude, est-ce que tu t'es retrouvée en tant qu'auteur dans ce livre-là?
Oui, absolument. Comme j'ai dit, le choix de la narratrice, le fait qu'on a choisi d'aborder les différences, quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans la littérature, ou si on aborde la différence, c'est toujours d'un point de vue négatif. Alors que là, la vie continue, autant dans le livre d'Annie Claude que dans le mien. Le quotidien est là, avec tout son lot de petits bonheurs et de difficultés, mais la vie continue.
Donc, c'est que le grand défi, là, dans le fond. Alors, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant de peut-être en lire juste un extrait dans chacun des cas. Peut-être qu'on pourrait commencer avec Marie-Claude qui... Alors, j'aimerais proposer aux auteurs de lire. En fait, je me demande si ça serait même peut-être plus intéressant d'avoir l'autre auteur qui lit votre passage en ce cas-ci. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ça? Avoir une autre voix complètement, donc...
On peut essayer ça. Donc, c'est Annie-Claude qui lit le roman de Marie-Josée Martin, « Un jour, ils entendront mes silences », aux éditions David. Raymond voit chaque détail, les yeux rivés sur sa petite dernière et le torse bombé d'admiration. Il n'a pourtant pas inventé le langage, me dis-je. Tout parle, tout communique. Il n'y a rien de plus naturel. En été, la cigale chante les louanges de la chaleur. En hiver, la glace qui craque sous mes roues appelle la protection de la neige. La maison geint quand le vent et le froid triturent sa vieille ossature. Pour nos parents, ne comptent toutefois que les mots, ceux que la voix humaine claironne ou murmure aux oreilles d'autres humains capables du même prodige. Ma sœur confirme aujourd'hui son appartenance à une confrérie dont je suis exclue, celle des bipèdes parlants. Raymond l'emporte hors de ma chambre, hors de mon monde.
Marie-Josée Martin, je lis un extrait du livre « Quelque chose comme une odeur de printemps » d'Anne-Claude Thériault. Hier, nous avons passé la soirée à chercher un mot pour décrire un sentiment qui nous anime toutes les deux. Nous l'avons cherché partout. Nous avons feuilleté des romans, des livres de poésie. Nous avons même presque tout lu le dictionnaire, mais le mot n'est jamais apparu. Trouver un mot est un plaisir tout aussi exquis que celui de connaître une odeur. On traverse une rue, on croise un restaurant, on s'allonge dans un parc ou on traîne dans un jardin et soudainement, on sent, oui, on sent quelque chose. Ce peut être le goudron chaud, la coriandre fraîche, le métal des chaînes d'une balançoire sur nos mains ou simplement le doux relent d'une marguerite, mais on sent quelque chose. Puis, brusquement, ça nous frappe. L'odeur, je veux dire, elle nous envahit.
Alors, la recherche du mot en tant qu'auteur, c'est quand même un défi. Alors, au niveau de vos... Pas des tics d'écriture, mais peut-être vos manies. Est-ce que vous êtes des auteurs qui travaillez lentement? Est-ce qu'on revient chaque fois, 100 fois sur chaque mot? Comment abordez-vous l'écriture?
Ah oui, absolument. Je suis une auteure qui écrit très lentement et qui repasse et repasse et repasse et repasse et repasse encore sur chaque phrase, chaque paragraphe. Il y a un peu de ma déformation professionnelle qui rentre là-dedans parce que mon gagne-pain, c'est la révision. Alors, à cause de ça, j'ai la manie de me réviser moi-même constamment. Et la recherche du mot, justement, comme tu dis, Lucie, c'est quelque chose d'important pour moi. Je travaille toujours avec mon thésaurus et des fois, je peux passer beaucoup de temps à chercher juste la bonne nuance. De ce que je veux exprimer. Les mots sont pas interchangeables. Il y a quelque chose de précis quand on a une idée. Et il y a aussi, au-delà du sens, je dirais que pour moi, il y a la mélodie aussi, parfois, qui est importante.
Ah, mais là, c'est sûr, en tant que musicienne, je ne peux qu'adhérer à la chose.
Hein? Oui, j'allais renchérir, j'allais faire un bond là-dessus, parce que moi, j'écris souvent en haute voix. J'adore lire à haute voix ce que j'écris pour la sonorité, tout simplement.
Donc, le gueuloir de Flaubert, finalement.
Exactement. Oui. J'adore ça. Puis aussi, phrase par phrase, mot par mot, c'est rare, je pourrais pas écrire... je parle de l'écriture littéraire parce que l'écriture technique, par exemple, pour un article, c'est tout autre chose. Mais je pourrais jamais écrire un chapitre complet puis le retravailler après. Pas question.
Non.
On écrit la phrase, puis là... Ah, tu sais, il y avait un prof de chimie qui disait, je me permets de le reprendre en anglais parce que c'était anglophone, il disait « get it down, get it ready, get it pretty ». Donc, il faut faire ça, mais avec chacune de nos phrases, hein, pas avec le texte au complet. Donc, inévitablement, ça fait qu'on travaille très lentement parce qu'on arrête après la phrase, on la met juste et ensuite on travaille sa beauté. Donc là, c'est terrible le temps que ça... Mais en même temps, c'est un plaisir énorme, là. Je veux dire, on s'amuse à jouer avec ces mots-là, puis à les changer, puis à... Donc, même si c'est lent, c'est tellement agréable que...
C'est pas grave, on est en bonne compagnie. Jacques Poulin est comme ça.
Oui, tout à fait.
On écrit très, très lentement. Chaque mot est pesé. Alors, on n'a pas de complexe à vous.
Tout à fait. On parle de Jacques Poulin. Si on évoquait certaines de vos influences ou de vos amours littéraires, qu'est-ce que ça serait?
Incontestablement, moi, je peux pas passer outre Régent du Charme, donc qui a été un auteur marquant de ma vie, de ma jeunesse, en fait, surtout. Donc, autour de l'âge de 16 ans, c'est vraiment à cause de l'écriture, vraiment à cause des mots. Son amour de la langue. Sinon, il y a aussi le livre qui m'a vraiment fait découvrir peut-être un peu la littérature, c'est Le Maître des Illusions, qui est un roman policier. Et qui traite beaucoup en même temps de philosophie, puis bon, des formations professionnelles, je suis enseignante en philosophie. Je trouvais que cet auteur-là avait réussi à merveille à inclure la philosophie de manière romanesque et littéraire. Donc, on sent pas une espèce de truc un peu fin là, de vouloir inclure là-dedans des réflexions là. Puis ça, j'avais trouvé ça là magnifique. D'ailleurs, ça m'a inspirée dans mon écriture parce que l'idée de faire un prologue, comme je le fais, et de reprendre cette section-là dans le milieu de mon livre, j'avais vu ça dans Le Maître des Illusions lorsque j'avais 15 ans, puis j'avais trouvé cette forme narrative-là d'une beauté incroyable. Ça tenait un certain suspense. Mon livre est pas du tout un roman policier, puis il y a pas un suspense énorme, mais j'aimais cette forme-là. Donc, je dirais que Donatart, Le Maître des Illusions, puis Régent du Charme sont vraiment deux auteurs ou livres. Dans le cas de Régent du Charme, c'est l'œuvre, là, donc je peux pas dire le livre. Là. Mais qui m'ont influencé dans l'écriture.
Mais ce retour justement du prologue devient un peu, dont on parlait de référence musicale tout à l'heure, c'est comme un motif qui revient puis qui nous rappelle que dans le fond le livre est articulé autour de ça, même si on sait ce qui s'est passé, on n'a pas compris ce qui s'est passé en fait. On a besoin de toute la première partie pour comprendre que ah mon Dieu, mais c'est ça en réalité qui s'est passé, parce que dans le fond, bon oui, elle revient des funérailles, mais ça pourrait être dans n'importe quelle circonstance là.
Oui.
Même on pourrait supposer qu'il s'est pendu, on ne sait pas, là, dans le fond.
Ouais.
Et puis là, après ça, tout le côté de la culpabilité s'installe, justement, plus profondément. Si, donc, Marie-Josée, si on parlait de tes influences littéraires ou de tes amours littéraires...
Une grande influence, moi, c'est Anne Hébert, en particulier Les Fous de Bassan, que j'ai lu plusieurs fois. Et justement, dans Les Fous de Bassan, c'est un peu comme ça aussi. On a des morceaux, puis quand on commence à lire, on comprend pas trop bien ce qui se passe, et c'est seulement à la fin qu'on comprend ce que tous les morceaux veulent dire. Alors, l'utilisation d'un prologue, on peut voir certainement l'influence. Mais aussi la musicalité chez Anne Hébert, je pense qu'il m'a beaucoup influencée. Milan Kundera, un livre que j'ai adoré, c'est L'insoutenable légèreté de l'être. C'est c'est une grande influence, probablement aussi dans mon... Peut-être le début de ma vocation littéraire, je sais pas, ça c'est pas nécessairement simultané, mais probablement son approche m'a beaucoup influencé
ma démarche. En même temps, c'est un peu castrant quand on se compare à Milan Kundera sur un premier livre, là.
Ah oui, oui. C'est pas mon premier, alors... Oui, ben, faut mettre la barre haute. J'embarbe, je pense que c'est l'année dernière où il y a un an et demi, il avait écrit un article sur son blog, justement, où il parlait de mettre la barre haute. Il faut viser haut. Je pense que c'est ma vision. Si on commence un livre avec pas d'ambition, qu'on se dit, oh, je veux écrire quelque chose de facile, de simple. C'est pas aussi bien pas écrire. Pour moi, j'aime autant viser haut, viser l'excellence. D'ailleurs, je travaille sur un nouveau livre. Il me fait peur, j'ai le vertige, mais je vais l'écrire pareil.
Puis, en fait, tout est castrant quand on écrit. Pas que Milan Kundera. Oui, oui, quand on commence à écrire, faut pas lire presque en même temps. Au début, moi, je fais toujours une grande cure de lecture avant. Puis quand j'écris, il faut pas que je lise parce que là, je vais arrêter. Parce que, ah, mais ici, l'histoire est mieux ficelée. Ah, mais c'est un roman policier, c'est bien mieux. Mais, ah, ici, mais lui, il réussit à créer une atmosphère incroyable. Mais lui, son personnage, mais j'ai trop de personnages. Ah non, j'en ai pas assez, blablabla. Donc, tout, hein, de Kundera à n'importe quel article de journaux qu'on trouve quelque part, là, c'est...
Moi, je continue de lire. Je veux dire, au contraire, je veux me laisser influencer par ces excellents auteurs et...
Une divergence entre nous.
Ah, ben oui, enfin!
On aurait pu croire que c'était des jumelles séparées à la naissance, là, quand même. Alors, tous les deux, vous avez publié chez une maison d'édition d'Ottawa. Mm-hmm. Est-ce que c'était un choix parce que... dans un cas, on vit dans la région, dans l'autre cas, on vient de la région. Donc, est-ce que c'était nécessaire pour vous de laisser votre marque dans la région ou c'est un concours de circonstances et puis que c'est l'éditeur qui a accepté votre manuscrit? Finalement, comment ça s'est passé?
Moi, j'ai hésité un peu. J'avais d'emblée pensé aux éditions David parce que je venais de la région, je connaissais bien les éditions David, je trouvais qu'ils faisaient de beaux romans. Donc, j'avais tout de suite pensé aux éditions David et à deux, trois autres maisons d'édition aussi au Québec que je trouvais intéressantes. Donc, j'en ai ciblé quelques-unes, dont les éditions David. Je dirais qu'il y a peut-être 5 maisons qui m'intéressaient. Là. Puis, j'ai eu des réponses. J'ai eu des non, pas de réponses du tout de certaines. J'ai eu des réponses très positives, très encourageantes, là, même de d'autres, et négatives d'une autre. Donc, finalement, je me suis... Puis, et positives chez David. Mais donc, j'avais ciblé cette maison d'édition-là comme étant une de celles qui m'intéressait beaucoup. Depuis, en fait, quand j'étais dans la région aussi, mes parents ont toujours travaillé pour la francophonie, etc. Donc, j'avais lu beaucoup de romans chez David, puis je connaissais l'équipe de Oui Dire aussi, donc je savais que c'était aussi une équipe qui était très intéressante. Une petite maison d'édition aussi, et comme chez David, c'est pour ça que David m'intéressait beaucoup aussi dans un sens, donne une attention particulière à ses auteurs. C'est-à-dire que là, la directrice littéraire, on a travaillé de très près ensemble autour du livre. Elle a beaucoup de temps à nous consacrer, à discuter avec nous. Même chose pour la visibilité du livre. Ici, on parle d'une petite maison d'édition franco-ontarienne. Moi, je suis d'origine aussi acadienne. Dans mon cas, ça m'a permis, par exemple, d'être invitée d'honneur au salon du livre de Chipagan. Chose qu'on n'aurait peut-être pas fait à cause des contacts dans la francophonie, puis ouais, etc. Chose qui serait sans doute pas arrivée si j'étais dans une grande maison d'édition où il y a des auteurs déjà de renom. On va se dire, c'est eux qu'on va envoyer à Chipagan, pas à Nick-Claude Thériault. Donc, ça permet aussi un autre type de visibilité. Bien sûr, le marché montréalais ou le marché du livre québécois. J'ai été libraire longtemps à Montréal et à Ottawa aussi d'ailleurs. Effectivement, la première fois que j'ai vu mon livre sur un site internet d'un grand libraire, il l'avait classé littérature étrangère. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'sais, donc, il y a aussi, parfois, on peut s'inquiéter de la réception qu'ont les libraires d'une maison d'édition lorsque... ils disent que ça vient d'où, Ontario?
C'est l'aberration du marché du livre franco-canadien que les auteurs hors Québec sont considérés étrangers.
Voilà.
Donc, c'est ça. Et puis, on ne sait pas où les mettre sur les tablettes dans les librairies très souvent. On les cherche, on les trouve.
moi, j'ai eu des commentaires de lecteurs, de lectrices, justement, sur le livre, et leur réaction, ça m'a chamboulée. Je m'attendais pas d'avoir si bien réussi. Je constate que mon intention, j'ai réussi.
Oui, c'est ça. C'est un très beau prix, parce qu'effectivement, quand on écrit, c'est principalement c'est pour nous aussi, mais c'est les gens qui vont nous lire,
c'est
qui
importe. C'est pour toucher quelqu'un d'autre.
Oui, ça. Voilà. On aime beaucoup que notre livre soit pas du tout interprété comme nous on l'a écrit, ça importe peu. Mais de savoir au moins quels ont été la réception ou les sentiments que ça a éveillé, ça c'est fabuleux.
Alors, on va garder les doigts croisés pour...
Mais absolument!
Et malheureusement, il y en a seulement une des deux qui va gagner.
Mais c'est pas grave,
alors,
ça sera comme si on avait gagné.
Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Au plaisir. Hein. Au revoir.
Merci.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était les actualités littéraires dans le monde francophone. Une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire!